Patchwork. Nous sommes le vendredi 24 juillet. Passez un bel été. Je vais continuer aujourd'hui avec la lettre B qui permet de faire un vrai patchwork, un patchwork qui mélange les genres et les styles. Bienvenue, alors on est un tout petit peu en avance, on profite de cet été où bien, ma foi les animateurs sont partis en vacances, je leur souhaite d'ailleurs passer de bonnes vacances et puis moi personnellement je prends mon temps, voilà c'est mes vacances à moi, c'est Radio Canu, la plus belle et la plus rebelle des radios. Alors j'aurais pu dire aussi la plus bordélique, mais c'est pas vrai. En ce moment, ça en est de progrès. Bravo à tous ceux qui donnent un petit coup de nettoyage. Je sais pas qui c'est, alors je dis pas les noms, mais merci à tous ceux qui s'occupent d'avoir cleané le bureau. Bureau comme un B. Well, I'm gonna tell you. Well, I'm gonna tell the really kill or be killed. Kill or be killed. You're always welcome. Oh, always welcome to love city. You're gonna. Bacchus ou Dionysos. Dionysos, au nom multiple, comme disait Sophocle, est l'une des divinités les plus complexes de la religion grecque. S'il est à peu près absent des poèmes homériques, il est pourtant un dieu très ancien, sans doute déjà connu des Mycéniens du deuxième millénaire. Son culte se réveille et se renouvelle à l'époque archaïque, et il passe alors pour le dernier né des Olympiens. Il est fils de Zeus et de Sémélé, la fille de Cadmos, arrachée par Zeus au corps de sa mère, consumée par la foudre du dieu. Il poursuit sa gestation cousue dans la cuisse de son père et est né littéralement de la cuisse de Jupiter, c'est-à-dire de Zeus. Enfance difficile que la sienne, encore jeune, il est en butte à la persécution du Thrace, Lycurgue, qui poursuit ses nourrices et le contraint à plonger dans la mer où Thétis le recueille épouvanté. Plus tard, capturé par les pirates, il ne leur échappe que grâce à d'effrayants prodiges. Rame transformé en serpent, navire paralysé par l'invasion exubérante de ces deux plantes emblématiques, le lierre et la vigne. Les pirates, effrayés par des lions, sautent à l'eau et sont transformés en dauphins. L'expression « sortir de la cuisse de Jupiter » signifie « être de haute naissance ». Sans cesse, Dionysos doit lutter contre ceux qui refusent de l'accueillir et de le reconnaître comme un dieu. Et il se venge cruellement en frappant de folie, par exemple, les filles d'Éleuthère, de Proïtos et de Minyas. Quand à Panthée, à Thèbes, il lui réserve une mort atroce et le fait déchirer par sa propre mère. Dionysos est en effet le dieu de la mania, la folie, celle que provoque le vin, cadeau du dieu aux hommes, mais plus encore celle que suscite la possession divine. Et Ménade ou Bacchante célèbre ainsi souvent en compagnie des satyres un culte libre et joyeux où l'on se laisse aller au délire de la musique, de la danse et de la boisson. Un culte que les voyages de Dionysos apporteront à tout le monde connu des Grecs puisque bien avant Alexandre, le dieu du vin, est allé jusqu'aux Indes. Dionysos semble avoir été il y a bien longtemps le parèdre d'Ariane, déesse de la végétation elle aussi, dont le mythe allait faire une mortelle. Elle est la jeune crétoise pour laquelle Dédale fit jadis à Knossos une ère de danse et qui aida Thésée à se retrouver dans le labyrinthe où était enfermé le Minotaure. Abandonné par le jeune Athénien sur le rivage de Naxos, c'est là que la retrouve Dionysos et qu'il l'épouse. À Rome, Dionysos est Bacchus, ce qui explique le nom de Bacchanal, donné aux cérémonies prétendument licencieuses qu'il honore et dont la célébration sera interdite par le Sénat en 186 avant notre ère. Dans le langage courant, une Bacchanal est une fête bruyante tournant à la débauche.
Walking down the aisle, deep romantic eyes speak so
vous écouter un morceau qui s'appelle Balthazar par le groupe Le Bus Rouge. C'est un groupe lyonnais, j'en profite, en tous les cas de la région, j'en profite pour les saluer, notamment Laurette qui fait partie du groupe, Laurette Zitouni au trombone, on a aussi Fanny, Léa, coucou Léa, on se connaît aussi d'un autre intermédiaire, Fred Couve aussi à la Caisse Claire, je connais, Yvan, Myriam, Louis, Marion, Xavier et Florent, voilà. Avant, c'était Beautiful des Lilas. C'était Chuck Berry.
Les femmes.
Most of our lives is leaving, sacrificed most of our lives.
dressing gown. Picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? We struggle hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years.
Friday morning at 9 o'clock, she is far away. Waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
Gee, what did we do that was wrong?
He's happy.
We didn't know it was wrong. Love is the wrong thing that money comes up.
Vous écoutez les Beatles. Extrait de Sgt Pepper's, oula, fatigué, Lonely Hearts Club Band. Seb fait la grimace à côté. Bah vas-y, prends le micro, tu verras. C'est pas facile aujourd'hui. Il fait très chaud. Juste avant, c'était un morceau à des becs bien zen, un groupe lyonnais qui s'appelle le Bistrot du Macadam. Alors pour les Beatles, c'est pas celui-ci que je voulais vous passer, c'est celui qui va venir et qui s'appelle, je vais retrouver le titre, Being for the Benefit of My Kit.
Fire. In this way, Mr. K will challenge the world.
venez d'écouter un extrait de Boccherini, un compositeur pas très connu. En tous les cas, c'est pas le plus célèbre des compositeurs de musique classique, mais quand même, il a fait ce magnifique quintet numéro 1 pour deux violons, deux altos et violoncelle, opus 47. En tous les cas, je découvre avec vous, j'ai le plaisir d'écouter donc ce Largo Cantabile, le troisième mouvement de ce quintet. On enchaîne avec un autre compositeur de musique classique, Anton Bruckner. Et bien sûr, juste avant, c'était la voix de David Bowie. Vous êtes toujours dans Patchworld en direct sur les ondes de Radio Canu. Vous écoutez un extrait de Anton Bruckner. C'est la symphonie numéro 4 romantique en mi bémol majeur et c'est le l'Andante, le deuxième mouvement qu'on écoute. Alors, je vous parlais un petit peu d'Anton Bruckner. Il est né en 1824 et il est mort en 1896. C'est un mystique gothique égaré en plein 19e. Ainsi, le chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler qualifiait-il Bruckner. Quelle que fut l'importance de la musique sacrée pour ce catholique fervent, il s'imposa par ses 9 symphonies, dont la dernière est inachevée, auxquelles s'ajoutent 2 œuvres plus anciennes en fa mineur et ré mineur, dit nullité, la numéro 0. De la deuxième à la dernière, elle naquit à Vienne où Bruckner demeurait depuis 1868, mais eurent grand peine à s'y imposer. L'orchestre philharmonique de Vienne refusa les deux premières, et la troisième fut accueillie sous les sifflets en 1877, sous la direction du compositeur. Il y avait à ce rejet des raisons musicales, une longueur, une structure inhabituelle, mais surtout, en dédiant sa troisième symphonie à Wagner, Bruckner s'était plongé au cœur de la polémique qui opposait Brahmsiens et Wagneriens, attirant la hargne des premiers, trop heureux d'avoir enfin des symphonies à opposer à celles de leurs poulains. Le redouté critique Édouard Hanslick, défenseur jusqu'à là de Bruckner, se mit à le fustiger, le livrant au mépris d'un public viennois conservateur qui suivait généralement ses opinions. Cette hostilité croissante amena l'humble Bruckner, sous l'influence de disciples, amis, chefs ou musiciens bien intentionnés, à remanier sans cesse ses œuvres. Certaines améliorations, ou plutôt mutilations, furent même réalisées et éditées sans son approbation, éclipsant cependant les originaux. Longtemps régna dans les éditions la plus grande confusion, et il resta bien des nœuds à démêler. La symphonie de Bruckner naît d'un murmure, d'une cellule élémentaire. Les thèmes s'ébauchent lentement, les processus sont ralentis, interrompus de silence. Mais cette progression est inéluctable, portée par des cuivres chauffés à blanc jusqu'à la lisière de paroxysme que Bruckner évite souvent au dernier moment, comme si le cheminement lui importait plus que le but. Cette architecture monumentale s'appuie sur une orchestration monolithique où s'opposent de manière saisissante les blocs d'instruments. Dans cette façon de sauter des bois au cuivre comme du clavier de positif à celui de grand orgue, on reconnaîtra la longue expérience acquise par l'organiste Bruckner à la tribune de l'abbaye de Saint-Florian.
Thank you.
La biographie des grands compositeurs est écrite par Claire Delamarche. C'est aux éditions First. Pour continuer dans les éditions First, ces tout petits livres qui sont pratiques, on les peut les emmener de partout. Je vais vous parler cette fois des grands écrivains, le top 50 des écrivains français, toujours aux éditions First. Et cette fois, c'est Jean-Joseph Julot qui parle d'Honoré de Balzac. On est dans la thématique des B. Tour 1799, Paris 1850. Je vous aime, inconnu. Voilà ce que peut lire la destinataire de cette lettre datée de février 1833, signée d'un écrivain très connu, de ceux qui le lisent alors et de ceux qui le lisent encore aujourd'hui, Honoré de Balzac. En 1833, Balzac a 34 ans. Né en 1799 à Tours, confié très jeune aux oratoriens de Vendôme, il y a été saisi d'une inquiétante et presque maladive boulimie de l'écriture, de lecture. Après des études de droit, il se prépare à devenir avoué chez un notaire, mais il rêve d'écriture, son imagination déborde. Ses parents lui accordent une année afin qu'il fasse ses preuves sur la page blanche. En 2 ans, il écrit plusieurs romans signés Lord Rone, anagramme d'Honoré. En 1822, la rencontre qu'il fait va lui ouvrir les portes du monde fortuné où il puisera une grande partie de son inspiration. Elle s'appelle Laure de Berny, à 45 ans, mère de 9 enfants, épouse d'un vieux mari, fille d'un professeur de harpe de la reine Marie-Antoinette, filleule de Louis XVI. Elle éblouit Honoré qui, malgré les 22 ans qui les séparent, tombe dans ses bras. La Dilecta, ainsi l'appelle Honoré, l'aimera jusqu'à sa mort en 1836, après avoir toujours soutenu moralement et surtout financièrement son génial amant. Le premier vrai roman balzacien paraît en 1829 et s'intitule Les Chouans, passionnante histoire d'amour et de rébellion dans la Bretagne de 1799. Plusieurs personnages vont se retrouver dans les romans que Balzac continue d'écrire, inaugurant ainsi le principe de la comédie humaine, titre d'un ensemble romanesque phénoménal qui, en 3 parties, étude de mœurs, étude philosophique, étude analytique, regroupe 91 romans achevés, 46 en projet, et met en scène plus de 2000 personnages, parmi lesquels Rastignac, l'arriviste, Vautrin, le révolté et l'inconnu. Elle est désormais bien connue, née en 1801. Elle vit en Ukraine, chez son riche mari, le comte Anski. Balzac va donc rencontrer Madame Anska à Genève. Leur liaison sera épisodique jusqu'en 1847. Il va la rejoindre en Ukraine et y demeure un peu moins de 2 ans. L'étrangère devient enfin familière au point de se décider à épouser son Honoré. Le 14 mars 1850, 5 mois plus tard, le 18 août, Balzac meurt à Paris épuisé. Citons l'auteur, l'amour dans le mariage est une chimère. Extrait de Génie. Gens généreux font de mauvais commerçants. Extrait des Illusions perdues. Thank you. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, c'est une des danses hongroises de Brahms en si mineur. Si, il faut savoir que les notes s'inscrivent aussi par des lettres de A à G en lettres majuscules. Et quand on se fait un dessin qui représente un B majeur, un B majuscule, pardon, ça signifie un si majeur. C'est un accord de si majeur et un grand B majeur avec un petit M signifie un si mineur. On était donc en BM, en si mineur pour cette danse hongroise. Eh bien, allez, on va parler un petit peu de Brahms, toujours dans les B. Johann Brahms, visite de Brahms, un génie. Il est né en 1833 et il est mort en 1891. C'est en ces termes qu'un autre génie, Robert Schumann, salue la visite d'un jeune garçon de 20 ans venu sonner à sa porte avec sous le bras quelques-unes de ses premières compositions. Quelques jours plus tard, Schumann publie dans la revue qu'il a fondée, la Neue Zeitschrift für Musik, un article dithyrambique où il raconte combien la musique de ce jeune homme timide l'a abasourdi. Le style est fleuri, mais l'analyse prophétique. Et il est venu, se sent jeune devant le berceau duquel les grâces et les héros ont monté la garde. Son nom est Johannes Brahms. Il vient de Hambourg, où il crée dans un silence obscur. Il porte toutes les marques qui annoncent celui-ci est un élu. Voilà, c'est en ces termes en tous les cas que Robert Schumann parle de Johann Brahms la première fois où il vient le voir chez lui pour lui présenter ses œuvres. Toujours honoré de Balzac, la recherche de l'absolu. Comment un riche flamand se prend de passion pour la chimie et l'alchimie et veut découvrir le secret de l'absolu, c'est-à-dire de l'unité de la matière. Comment ce sombre génie ruine sa famille. Comment la science rend fou et comment Balthazar Claës croit découvrir dans ses derniers instants et sans pouvoir le communiquer le secret auquel il a sacrifié ses biens, ses proches et sa vie. De tous les romans de Balzac, aucun ne justifie mieux le mot de Baudelaire. J'ai maintes fois été étonnée que la grande gloire de Balzac fût de passer pour un observateur. Il m'avait toujours semblé que son principal mérite était d'être visionnaire et visionnaire passionné. La recherche de l'absolu est aussi l'une des œuvres les plus somptueusement pittoresques de Balzac, véritable tableau flamand que balaient les ombres de Rembrandt.
Thank you.
Connaissez-vous ce compositeur? C'est aussi une suite de danse. Cette fois, il s'agit de Béla Bartók, né en 1881 et mort en 1945. Bartók, né dans une région du sud de la Hongrie, passé en 1920 à la Roumanie, Bartók est la figure dominante de la musique hongroise du XXe siècle. En 1904-1905, la découverte de la musique paysanne hongroise lui ouvre de nouveaux horizons sonores et l'aide à se libérer définitivement de l'influence de Strauss et Wagner. Il se fait remarquer en 1910 par son premier quatuor à cordes, mais a toutes les peines à faire monter l'opéra Le Château de Barbe Bleue et le pantomime Le Mandarin Merveilleux, dont le sujet fait scandale. En compagnie de son ami Zoltán Kodály, il recueille et étudie sans relâche le folklore de Hongrie. Mais au contraire de son ami, Bartók y découvre non pas le parfum national qui colorera ses partitions, mais la source d'inspiration de ses innovations les plus radicales. Aussi dépasse-t-il largement le cadre du folklore hongrois et se passionne-t-il tout autant pour les rythmes incroyables des danses bulgares, la sauvagerie de certaines musiques turques ou la beauté étrange des Noëls roumains. Ses chants et danses inspirent son œuvre de façon diverse, de la simple transcription au plus haut degré d'abstraction, en passant par tous les états du folklore imaginaire, pour reprendre l'expression de l'un de ses biographes. En 1926, le concerto pour piano numéro 1 inaugure la série des grands chefs-d'œuvre de la maturité. Opposant farouche au nazisme, Bartók s'exile à New York en 1940. Il y mourra dans le dénuement, emporté par une leucémie, et laissant inachevées ses deux dernières œuvres, le concerto pour piano numéro 3 et le concerto pour alto. Toutes les partitions de Bartók ne sont pas faciles d'accès, mais son œuvre est profondément humaine et ses partitions les plus complexes recèlent toujours des trésors de beauté sonore. Peut-être est-il important d'aborder la musique de Bartók par le bon bout, sous peine d'être rebuté par des œuvres plus agressives ou abstraites que d'autres. Et l'on découvrira l'une des œuvres les plus riches, les plus originales, les plus marquantes de son siècle. Extrait de Béla Bartók, donc les suites de danse, et vous avez écouté le Molto Tranquillo, le Commodo et le Finale. Je vous conseille également Musique pour cordes, percussions et Celesta, une pièce que je trouve magnifique et j'en avais passé déjà quelques extraits dans mes premières émissions de Patchworld. Thank you. Honoré de Balzac, donc La recherche de l'absolu, je vous en lis un extrait. Ce gentilhomme polonais se nommait Monsieur Adam de Wierzchownia, reprit Balthazar. Quand le soir, tu nous eus laissés seuls dans le parloir, nous nous sommes mis par hasard à causer chimie. Arraché par la misère à l'étude de cette science, il s'était fait soldat. Je crois que ce fut à l'occasion d'un verre d'eau sucrée que nous nous reconnûmes pour adeptes. Lorsque j'eus dit à Mulquinier d'apporter du sucre en morceaux, le capitaine fit un geste de surprise. « Vous avez étudié la chimie ? » me demanda-t-il. « Avec Lavoisier, lui répondis-je. Vous êtes bien heureux d'être libre et riche, s'écria-t-il. » Et il sortit de sa poitrine un de ces soupirs d'homme qui révèlent un enfer de douleur caché sous un crâne ou enfermé dans un cœur. Enfin, ce fut quelque chose d'ardent, de concentré, que la parole n'exprime pas. Il acheva sa pensée par un regard qui me glaça. Après une pause, il me dit que la Pologne, quasi morte, il s'était réfugié en Suède. Il avait cherché là des consolations dans l'étude de la chimie pour laquelle il s'était toujours senti une irrésistible vocation. « Et, bien, ajouta-t-il, je le vois, vous avez reconnu, comme moi, que la gomme arabique, le sucre et l'amidon en poudre, donnent une substance absolument semblable et l'analyse un même résultat qualitatif. » Il fit encore une pause et après m'avoir examiné d'un œil scrutateur, il me dit confidentiellement et à voix basse de solennelles paroles dont aujourd'hui le sens général est seul resté dans ma mémoire. Mais il les accompagna d'une puissance de son, de chaudes inflexions et d'une force dans le geste qui me remuèrent les entrailles et frappèrent mon entendement comme un marteau bat le fer sur une enclume. Voici donc en abrégé ces raisonnements qui furent pour moi le charbon que Dieu mit sur la langue d'Isaïe, car mes études chez Lavoisier me permettaient d'en sentir toute la portée. Monsieur, me dit la parité de ces trois substances, en apparence si distincte, m'a conduit à penser que toutes les productions de la nature devaient avoir un même principe. Les travaux de la chimie moderne ont prouvé la vérité de cette loi pour la partie la plus considérable des effets naturels. La chimie divise la création en deux portions distinctes, la nature organique, la nature inorganique. En comprenant toutes les créations végétales ou animales dans lesquelles se montre une organisation plus ou moins perfectionnée, ou pour être plus exact, une plus ou moins grande motilité qui y détermine plus ou moins de sentiments. La nature organique est certes la partie la plus importante de notre monde. Or, l'analyse a réduit tous les produits de cette nature à quatre corps simples qui sont trois gaz, l'azote, l'hydrogène, l'oxygène, et un autre corps simple non métallique et solide, le carbone. Au contraire, la nature inorganique, si peu variée, dénuée de mouvements, de sentiments, et à laquelle on peut refuser le don de croissance que lui a légèrement accordé l'inné, compte 53 corps simples, dont les différentes combinaisons forment tous ses produits. Est-il probable que les moyens soient plus nombreux là où il existe moins de résultats ? Aussi l'opinion de mon ancien maître est-elle que ces 53 corps ont un principe commun, modifié jadis par l'action d'une puissance éteinte aujourd'hui, mais que le génie humain doit faire revivre. Et bien, supposer un moment que l'activité de cette puissance soit réveillée, nous aurions une chimie unitaire. Les natures organiques et inorganiques reposeraient vraisemblablement sur quatre principes. Et si nous parvenions à décomposer l'azote que nous devons considérer comme une négation, nous n'en aurions plus que trois. Nous voici déjà près du grand ternaire des anciens et des alchimistes du Moyen-Âge, dont nous nous moquons à tort. La chimie moderne n'est encore que cela, c'est beaucoup et c'est peu. C'est beaucoup car la chimie s'est habituée à ne reculer devant aucune difficulté. C'est peu en comparaison de ce qui reste à faire. Le hasard l'a bien servi, cette belle science. Ainsi, cette larme de carbone pur, cristallisée, le diamant, ne paraissait-il pas la dernière substance qu'il fut possible de créer ? Les anciens alchimistes qui croyaient l'or décomposable, conséquemment faisable, reculaient l'idée de produire le diamant. Nous avons cependant découvert la nature et la loi de sa composition. « Moi, dit-il, je suis allé plus loin. Une expérience m'a démontré que le mystérieux ternaire, dont on s'occupe depuis un temps immémorial, ne se trouvera point dans les analyses actuelles qui manquent de direction vers un point fixe. Voici d'abord l'expérience. Semer des graines de cresson, pour prendre une substance entre toutes celles de la nature organique. » Dans de la fleur de soufre, pour prendre également un corps simple. Arroser les graines avec de l'eau distillée, puis pour ne laisser pénétrer dans les produits de la germination aucun principe qui ne soit certain. Les graines germent, poussent dans un milieu connu, en ne se nourrissant que de principes connus, par l'analyse. Coupez à plusieurs reprises la tige des plantes afin de vous en procurer une assez grande quantité pour obtenir quelques gros de cendres en les faisant brûler et pouvoir ainsi opérer sur une certaine masse. Eh bien, en analysant ces cendres, vous trouverez de l'acide silicique, de l'alumine, du phosphate et du carbonate calcique, du carbonate magnésique, du sulfate, du carbonate potassique et de l'oxyde ferrique, comme si le cresson était venu en terre au bord des eaux. Or, ces substances n'existent ni dans le soufre, corps simple, qui servait de sol à la plante, ni dans l'eau employée à l'arroser et dont la composition est connue, mais comme elles ne sont pas non plus dans la graine, nous ne pouvons expliquer leur présence dans la plante qu'en supposant un élément commun au corps contenu dans le cresson et à ceux qui lui ont servi de milieu. Ainsi l'air, l'eau distillée, la fleur de soufre et les substances que donne l'analyse du cresson, c'est-à-dire la potasse, la chaux, la magnésie, l'alumine, etc., auraient un principe commun et rendent dans l'atmosphère tel que l'a fait le soleil. De cette irrécusable expérience, écria-t-il, j'ai déduit l'existence de l'absolu. Une substance commune à toutes les créations modifiées par une force unique, telle est la position nette et claire du problème offert par l'absolu et qui m'a semblé cherchable. Là, vous rencontrerez le mystérieux ternaire, devant lequel s'est de tout temps agenouillée l'humanité, la matière première, le moyen, le résultat. Vous trouverez ce terrible nombre 3 en toute chose humaine. Il domine les religions, les sciences et les lois. Ici, me dit-il, la guerre et la misère ont arrêté mes travaux. Vous êtes un élève de Lavoisier, vous êtes riche et maître de votre temps. Je puis donc vous faire part de mes conjectures. Voici le but que mes expériences personnelles m'ont fait entrevoir. La matière, une, doit être un principe commun aux 3 gaz et au carbone. Le moyen doit être le principe commun à l'électricité négative et à l'électricité positive. Marchez à la découverte des preuves qui établiront ces 2 vérités, vous aurez la raison suprême de tous les effets de la nature. « Oh, monsieur, quand on porte là, dit-il en se frappant le front, le dernier mot de la création en pressentant l'absolu, est-ce vivre que d'être entraîné dans le mouvement de ce ramas d'hommes qui se ruent à heure fixe les uns sur les autres sans savoir ce qu'ils font ? Ma vie actuelle est exactement l'inverse d'un songe. Mon corps va, vient, agit, se trouve au milieu du feu, des canons, des hommes, traverse l'Europe au gré d'une puissance à laquelle j'obéis en la méprisant. » Mon âme n'a nulle conscience de ses actes. Elle reste fixe, plongée dans une idée, engourdie par cette idée, la recherche de l'absolu, de ce principe par lequel des graines absolument semblables, mises dans un même milieu, donnent l'une des calices blancs, l'autre des calices jaunes, phénomène applicable au ver à soie qui nourrit des mêmes feuilles et constitué sans différence apparente, font les uns de la soie jaune et les autres de la soie blanche, enfin applicable à l'homme lui-même qui, souvent, a légitimement des enfants entièrement dissemblables avec la mère et lui. » Vous êtes toujours dans Patchwork, l'émission qui parle de tout et de tous et plus encore. Et puisque le tout est plus que la somme, on essaiera d'oublier personne. Honoré de Balzac, la recherche de l'absolu. Vous entendez Ludwig van Beethoven, c'est aussi un andante con moto de la sonate Appassionata, opus 57 de Ludwig van Beethoven. Il meurt à l'âge de 57 ans en 1827. Grâce à un travail sans trêve, vous allez recevoir des mains de Haydn l'esprit de Mozart au début de 1792. C'est par ces mots que le comte Waldstein accompagne la bourse d'études qu'il a octroyée à son protégé Beethoven pour qu'il aille à Vienne étudier auprès de Haydn. Le jeune garçon ne reviendra pas à Bonn, sa ville natale. Il fera toute sa carrière dans la capitale impériale, réalisant les paroles prophétiques de son bienfaiteur. À Vienne, il se fait connaître comme pianiste. Ses premières œuvres sont reçues dans l'enthousiasme, mais il est frappé par un début de surdité. Il rédige alors une poignante confession, le testament d'Heiligenstadt en 1802, et doit abandonner sa carrière de virtuose. La déduction logique de ce fait n'implique-t-elle pas d'ailleurs la raison de tous les effets de la nature ? Et quoi de plus conforme à nos idées sur Dieu que de croire qu'il a tout fait par le moyen le plus simple ? L'adoration pythagoricienne pour le 1, d'où sortent tous les nombres et qui représente la matière 1, celle pour le nombre 2, la première agrégation et le type de tous les autres, celle pour le nombre 3 qui de tout temps a configuré Dieu, c'est-à-dire la matière, la force et le produit. Ne résume-t-elle pas traditionnellement la connaissance confuse de l'absolu ? Stahl, Baker, Paracels, Agrippa, tous les grands chercheurs de causes occultes avaient pour mot d'ordre le trismégiste, qui veut dire le grand ternaire. Les ignorants, habitués à condamner l'alchimie, cette chimie transcendante, ne savent sans doute pas que nous nous occupons à justifier les recherches passionnées de ces grands hommes. L'absolu trouvé, je me serais alors colleté avec le mouvement. Ah, tandis que je me nourris de poudre et commande à des hommes de mourir assez inutilement, mon ancien maître entasse découverte sur découverte. Il vole vers l'absolu, et moi, je mourrai comme un chien au coin d'une batterie. Quand ce pauvre grand homme eut repris un peu de calme, il me dit avec une sorte de fraternité touchante : « Si je trouvais une expérience à faire, je vous l'alléguerais avant de mourir. » Ma Pépita, dit Balthazar en serrant la main de sa femme. Des larmes de rage ont coulé sur les joues creuses de cet homme pendant qu'il jetait dans mon âme le feu de ce raisonnement que déjà Lavoisier s'était timidement fait, sans oser s'y abandonner. « Comment ?» s'écria Madame Claès, qui ne put s'empêcher d'interrompre son mari. « Cet homme, en passant une nuit sous notre toit, nous a enlevé tes affections, a détruit par une seule phrase et par un seul mot le bonheur d'une famille. Oh, mon cher Balthazar, cet homme a-t-il fait le signe de la croix? L'as-tu bien examiné? Le tentateur peut seul avoir cet œil jaune, d'où sortait le feu de Prométhée. Oui, le démon pouvait seul t'arracher à moi. Depuis ce jour, tu n'as plus été ni père, ni époux, ni chef de famille. » « Quoi ?» dit Balthazar en se dressant dans la chambre et jetant un regard perçant à sa femme. « Tu blâmes ton mari de s'élever au-dessus des autres hommes afin de pouvoir jeter sous tes pieds la pourpre divine de la gloire comme une minime offrande auprès des trésors de ton cœur. Mais tu ne sais donc pas ce que j'ai fait depuis 3 ans. Des pas de géant, ma Pépita, dit-il en s'animant. Son visage parut alors à sa femme plus étincelant sous le feu du génie qu'il ne l'avait été sous le feu de l'amour, et elle pleura en l'écoutant. « J'ai combiné le chlore et l'azote. J'ai décomposé plusieurs corps jusqu'ici considérés comme simples. J'ai trouvé de nouveaux métaux. Tiens, dit-il en voyant les pleurs de sa femme, j'ai décomposé les larmes. Les larmes contiennent un peu de phosphate de chaux, de chlorure de sodium, du mucus et de l'eau. » Il continua de parler sans voir l'horrible convulsion qui travailla la physionomie de Joséphine. Il était monté sur la science qui l'emportait en croupe, elle déployée bien loin du monde matériel. Voilà, donc je vous le redis, c'était un extrait de La recherche de l'absolu de Balzac qui se lance, donc Balthazar qui se lance dans l'alchimie. Symphonie fantastique d'Hector Berlioz, un bal, c'est le deuxième mouvement. Hector Berlioz, né en 1803, mort en 1869, c'est un caractère entier qui resta à l'écart des cercles officiels. Berlioz fait figure d'électron libre dans la vie musicale française de son temps, même s'il fut admiré et soutenu par certains de ses contemporains comme Paganini, Liszt ou Wagner. Il rencontra de nombreuses difficultés à faire jouer sa musique. Et quand il y réussit, ce ne fut la plupart du temps qu'au prix d'une extrême ténacité. Il gagna sa vie en partie comme critique et comme écrivain. Et ses mémoires offrent le récit succulent de la vie musicale parisienne et européenne de l'époque. Il reste comme l'une des figures les plus représentatives du romantisme musical français. Talent d'une rare originalité, personnalité complexe et attachante, orchestrateur admiré par des générations de musiciens. Fils d'un médecin de la Côte-Saint-André, dans l'Isère, pas très loin d'ici. Il commença des études de médecine qu'il interrompit au bout d'un an contre l'avis de son père. Il voulait être compositeur. comme Thibaut. Juste avant, vous avez entendu un Barclay James Harvest. Le morceau s'appelait Beyond the Grave. J'en profite pour faire coucou donc à Sophie qui nous a appelé, si j'ai bien eu le temps de retenir son prénom. Je m'excuse, je suis toujours un peu speed quand je décroche le téléphone et que j'enchaîne les livres et les vinyles. Donc je fais un coucou, je souhaite aussi un bel été à tous ceux qui en profitent des vacances, mais on pense aussi à ceux qui sont dans les hôpitaux, qui se soignent bien sûr, et puis bien sûr ceux qui continuent à bosser, qui partent pas en vacances.
Around.